Je suis content de vous retrouver en tout cas ce matin. Bienvenue à tous pour continuer cette série sur effectivement ce bon combat. Donc le but de cette série, je le rappelle, hein, c'est vraiment de prendre conscience de la nature de ce vrai combat et puis que vous soyez équipés hein, et que vous puissiez saisir les bonnes armes pour mener ce combat. Parce que souvent, on se laisse détourner du vrai combat, puis c'est un petit peu aussi ce que j'ai dit la dernière fois. Il y a un tas de choses qui font qu'on oublie de regarder au bon endroit, on oublie pourquoi on est là, on oublie quelle est notre mission première, et puis on se perd. On dépense notre énergie à des endroits qui n'en valent pas forcément la peine, alors que Jésus a un appel pour nous. Alors si je résume un petit peu ma pensée, combattre le bon combat, c'est quoi ? C'est premièrement rechercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça pour moi. C'est choisir de garder mon regard donc fixé sur Jésus. Alors peut-être que je marche sur l'eau, peut-être que je traverse une tempête, que je ne vois même pas où je vais, il paraît que c'est ça la foi, eh bien je choisis de garder le regard sur Jésus. Combattre le bon combat, c'est aussi avancer avec foi, alors que tout autour de moi voudrait m'arrêter. On voudrait me stopper. Mes circonstances même, j'ai envie de dire, me permettraient cela. Les gens autour de moi diraient, mais pourquoi t'as pas abandonné ? Mais c'est la persévérance. C'est orienter ma vie afin d'accomplir la volonté de Dieu et non la mienne. Ça, c'est tout un défi. C'est aussi renoncer à la facilité et à la fatalité. C'est accepter de payer le prix. Puis ça, je l'ai déjà prêché, mais on ne l'aime pas. Il faut payer le prix pour que mes voisins, pour que mes collègues puissent entendre parler de Jésus qui a donné sa vie pour eux. Et puis c'est terminer ma vie en pouvant dire, comme on a vu cette histoire du jeune William Borden, c'est de pouvoir terminer notre vie en disant « pas de compromis, pas de retour en arrière, pas de regret ». Ou bien comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est ça, combattre le bon combat. Alors nous avons vu effectivement la nature de ce combat, la réalité dans nos propres vies, dans le premier message. Je vous avais adressé deux questions essentielles, basiques mais essentielles. Savez-vous pourquoi vous vous battez ? Et j'espère que vous avez pu commencer à répondre à cette question au fil du temps, réfléchir un petit peu. Mais en fait, pourquoi je me bats ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je me bats pour ça ? Est-ce que je me bats pour Jésus ? Est-ce que je me bats pour l'Évangile ? Ou bien je me bats juste parce qu'il semble qu'il faut que je me batte ? C'est quoi le but de votre vie ? C'était la deuxième question. C'est quoi le sens de ma vie aujourd'hui ? Et j'avais dit ceci, lorsqu'on sait pourquoi on vit, nos souffrances prennent aussi un autre sens. Et je crois que c'est important, parce qu'on est dans un monde de souffrance. Et puis, la question qui revient souvent, c'est pourquoi la souffrance ? Mais ce qui est certain, c'est que si on sait pourquoi on se bat, si on regarde au bon endroit, alors nos souffrances prennent aussi un autre sens. Et puis dimanche passé, on a eu un culte famille, ce n'était pas forcément la suite du message, mais pourtant, on a parlé de la joie en toutes circonstances. C'était génial dimanche passé. Je comprends que peut-être certains célibataires, certains sans enfants, certains plus âgés ont décidé de ne pas être là, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il n'y avait plus de chaises, il n'y avait que des couvertures, et puis on a bien rigolé. Et on a vraiment reçu cette joie qui est un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Et finalement, souvent nos circonstances font que la joie de Dieu est étouffée, elle est cachée. Mais en réalité, elle est toujours là. Donc on doit faire le ménage. Et on a besoin justement des armes de Dieu pour que cette joie soit là. Et lorsque cette joie est là dans le combat, je peux vous dire que c'est une force. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. La joie de l'Éternel est ma force. Donc ce matin, et puis dimanche aussi, 25 juin, on va saisir l'équipement du soldat pour résister et tenir ferme. Voilà. Il manque la fin, c'est bien. C'est pas grave. Et puis, finalement, je voulais faire en une seule fois, mais il y avait tellement à dire qu'on va en parler deux fois de ce thème. Donc saisir l'équipement du soldat et puis résister et tenir ferme dans le combat. Ça va, vous êtes là encore ? Super, je ne vous ai pas encore perdu après deux minutes, c'est bon signe. Yes. Alors la subtilité de cette bataille elle réside dans le fait que c'est un combat qui est spirituel. Donc, on ne le voit pas, ou parfois on ne veut pas le voir. Peut-être que ce matin, tu es là et tu n'avais pas envie d'être là. Peut-être que tu as lutté pour être là. Peut-être la première fois que tu viens ce matin. Alors peut-être c'était soit qu'il faisait très beau, c'est vrai, soit que tu étais très fatigué, c'est possible, ou soit peut-être que l'ennemi n'avait pas envie que tu sois là. Et peut-être tu ne vois pas ça. Tu dis, j'étais juste fatigué, c'est normal. On ne veut pas tout spiritualiser quand même. Mais il se pourrait que l'ennemi n'avait pas envie que tu sois là. Il n'avait pas envie que tu entendes ça. Donc c'est un combat spirituel qu'on ne voit pas toujours. Mais lorsqu'on qu'on prend conscience de ce combat, on réalise alors qu'on ne peut pas combattre un combat spirituel d'une manière humaine. Ça semble logique. Je ne peux pas combattre par moi-même. Je ne peux pas combattre en prenant juste une vraie épée. Je ne peux pas. Parce que c'est spirituel. Donc, tout au long de cette série, vous allez découvrir que les armes que Dieu nous donne sont étonnantes. Que les stratégies de Dieu, on les verra dans les prochains dimanches, sont parfois folles. On verra des exemples bibliques. C'est hallucinant ce que Dieu a permis. C'était complètement fou. Et puis parfois, la victoire, elle n'est pas toujours visible à nos yeux. Et je pense que si on comprend ces choses, on va déjà bien avancer. Alors qu'on l'accusait de parler trop durement, de se comporter de manière trop humaine, pas assez spirituelle, Paul a dit ceci à l'église de Corinthe. En tout cas, j'ai un peu ajouté, il a dit, « En tout cas, si nous marchons dans la chair, il y a une chose qui est certaine, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Amen. Des armes puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Et puis en Éphésiens 6, versets 10 à 13, nous pouvons lire « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon ou tenir ferme devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons. Donc ce n'est pas une bataille qui est humaine, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon, ou encore une fois, tenir ferme, selon les versions. Donc ces deux passages nous montrent qu'il y a donc ce combat qui est spirituel à mener, des forteresses à faire tomber, des pièges à éviter. Et puis Paul rappelle au départ, soyez puissants dans le Seigneur par sa force. Donc c'est bien en Dieu que nous avons la force, que nous avons besoin de toutes les armes. Il le répète plusieurs fois, toutes les armes de Dieu pour tenir ferme dans ce combat. Il faut littéralement la panoplie. La panoplie, vous connaissez ce terme? Eh bien c'est ça. La panoplie, dans le grec panoplia, c'est l'armure complète du soldat. C'est ça que ça veut dire. On a besoin de la panoplie, c'est-à-dire l'armure complète. Panoplia. Le texte d'Éphésiens sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui parle donc des manœuvres, vous avez vu ici, des manœuvres du diable. D'autres versions vont dire des ruses du diable, des pièges du diable. Et puis, je l'ai dit lors du premier message, l'ennemi, c'est un mauvais perdant. L'ennemi, il n'accepte pas sa défaite. Alors, avant de se saisir des armes, je pensais quand même important de regarder quelques-unes de ces manœuvres pour que nous saisissions bien qu'est-ce qu'il essaye de faire. Et puis, ça nous aide dans notre combat parce qu'on voit mieux ce que veut faire l'ennemi. Alors, la première chose que l'ennemi essaye de faire, il attaque la réputation et la crédibilité de Dieu. Parce qu'il ne veut pas que nous fassions confiance à Dieu. Il ne veut pas ça. Et dès la Genèse, on le voit. Il dit, est-ce qu'il a vraiment dit cela? Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait, Dieu il sait très bien que si vous mangez de ce fruit, vous allez être comme lui? croyez pas que c'est pour ça qu'il vous a dit quelque chose ?» Il essaye de tenter, etc., pour faire croire que Dieu est un menteur. Qui n'a jamais entendu dans vos propres vies, est-ce que c'est vraiment pas bien ça? Est-ce que c'est vraiment pas bien ce que tu fais? Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas fumer? Est-ce que c'est vraiment pas bien? Là, je prends un truc tranquille, hein, la fumette, ça va. Je ne voudrais pas vous choquer. On a tous entendu ce genre de choses. Donc, il essaye de nous convaincre que Dieu est un menteur. Deuxième chose, il attaque par la persécution. Il veut nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu, hein, en nous faisant peur, en nous faisant croire à des représailles, ou bien c'est des représailles qui sont vraiment vraies. Il y a vraiment de la persécution. Donc ça nous tient dans la peur, dans la crainte. Ou bien on a peur du candidaton. Donc il nous pousse à faire des compromis parce qu'on ne veut pas perdre nos amis, parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Puis parfois il fait même l'inverse. Il nous facilite la vie, il nous rend la vie facile au point où on tend à vivre sans Dieu. On n'a plus besoin, on n'est plus dépendant de Dieu. Et puis je crois que c'est parfois dans la facilité qu'il est le plus difficile de rester fidèle. Donc si vous avez la vie cool, facile, non. Posez-vous des questions. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que je suis juste en paix, gloire à Dieu? Est-ce que j'ai saisi toutes les armes de Dieu? Ou bien est-ce qu'il est en train de m'endormir, l'ennemi? Troisième chose, il attaque en semant la confusion par des fausses doctrines. On les connaît bien, ces fausses doctrines, il y en a toujours qui arrivent, des nouvelles. Et puis, celle qui m'a marqué, c'était le fameux retour de Jésus, 28 septembre 2015, c'est juste? En tout cas, il est parvenu. Mais, en tout cas, je crois que c'était 2015 ou 2014. Il y avait tout un septembre. Vous savez mieux que moi, alors qui c'est? Vous voyez que ces fausses doctrines prennent racine. Donc, il y a des choses comme ça. Et étonnamment, il y avait tellement de bons arguments que des gens fondés dans l'Église, des gens présents depuis longtemps, commencent à y croire. Ils disent, ouais, mais quand même, je ne me laisse pas avoir pour beaucoup de choses, mais là, il me semble qu'il y a des bons arguments. Ça pourrait bien. Mais la parole, elle le dit. Personne ne sait. Seul Dieu le Père. Donc il y a des fausses doctrines qui arrivent. Et puis forcément qu'on devient inefficace dans l'œuvre de Dieu si on est toujours ballotté à tout vent de doctrine. Et puis on finit même par penser que la parole de Dieu est trop compliquée. Ça vaut plus la peine de lire la parole de Dieu. Finalement, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça. Personne n'est d'accord. C'est trop compliqué, donc on arrête, on laisse tomber, et puis là, l'ennemi gagne. Quatrièmement, il s'oppose à toute vie consacrée, à tout ministère efficace. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais c'est sûr que par divers moyens, il essaie toujours de faire chuter celui qui veut se consacrer, celui qui a un ministère efficace, celui qui est peut-être plus en avant, qui prend plus de risques, etc. Il essaie toujours de les faire chuter. Par des chutes morales, par exemple. L'adultère en est un qui fait souvent ravage, malheureusement. Et puis, il attaque l'Église par la division entre les croyants. Ce n'est pas nouveau non plus. Le nombre d'Églises qui se divisent, division sur division, c'est tellement dur. Et c'était justement un sujet central de la lettre aux Éphésiens. Mais c'est clair que sans la paix, sans l'unité entre nous, il n'est pas possible de bâtir. Et je crois que ça, c'est important pour nous. On doit veiller toujours à l'unité. C'est pour ça qu'on essaie aussi de vivre des liens de fraternels, de communion. On a besoin d'être ensemble si on veut que Dieu nous utilise et puisse continuer à bâtir son Église. Il attaque aussi par le piège de l'autosuffisance. Donc il nous fait croire qu'on n'a pas besoin de Dieu et puis qu'on peut se gérer par notre propre sagesse, notre propre intelligence. Des fois, je me fais aussi avoir. Je me dis, mais attends, j'ai pris une décision, mais c'était vraiment de lui ou bien c'était juste que j'ai pensé que c'était une bonne idée. Le Proverbe chapitre 3, verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Et puis, je cite le pasteur John MacArthur, qui aussi fait des commentaires bibliques, Il a dit « La bonne théologie n'accompagne pas un profond... Si la bonne théologie n'accompagne pas un profond engagement avec Christ, alors l'Église va mourir. » Donc, une bonne théologie ne suffit pas. D'accord ? On a besoin de s'appuyer, de faire confiance, de s'appuyer sur la sagesse de Dieu. Mais l'ennemi essaie de nous faire croire qu'on peut faire sans lui. On peut faire sans Dieu. Septièmement, il attaque les chrétiens en les faisant tomber dans l'incohérence, dans l'hypocrisie. Ben oui, parce que si notre vie n'est pas en adéquation avec ce que la parole de Dieu dit, ben l'ennemi va s'en réjouir, puis il va commencer à salir l'Église. Et puis il va montrer au monde que l'Église, regardez ces chrétiens-là, comment ils sont. Puis il met la confusion au milieu de nous. Il discrédite l'Église de Jésus-Christ. Huitièmement, il attaque en nous entraînant dans la mondanité. Il veut que nous nous laissions former par la pensée et les désirs du monde. Puis c'est tout le défi d'avoir une Église à la fois qui est actuelle, qui est contemporaine, qui sait aller rejoindre les gens là où ils sont, mais pas une Église qui se laisse avoir par les mêmes principes que le monde. Puis c'est pas facile, c'est une tension qui est là. Mais lui, il veut ça. Il veut que les principes du monde régissent nos vies et l'Église. Après, on peut parler bien sûr du matérialisme, de l'hédonisme. On cherche toujours notre propre épanouissement, moi, etc. Et puis d'une manière plus globale, neuvièmement, il nous pousse bien sûr à la désobéissance, à l'infidélité vis-à-vis de Dieu par la tentation. Dieu veut la vérité, il va t'encourager à mentir, etc. etc. La liste pourrait être longue. Donc face à tout ça, Paul nous encourage à se saisir de toutes les armes de Dieu et de tenir ferme. On va relire ce texte d'Éphésiens 6 ensemble, les versets 10 à 18. Ça va ? Je ne vous fais pas peur. Non, parce qu'on est là pour parler de Jésus, d'accord ? C'est Jésus le Sauveur, Jésus qui est bon et qui a la victoire, ok ? Mais il faut quand même être conscient qu'il y a un combat. Alors on relit ce texte ensemble. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et, après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon, saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications pour se faire rester éveillé. Et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Amen. Alors quelques mots sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Cette lettre de Paul, elle est séparée en deux parties. Dans la première partie, Paul présente le plan du salut. Et puis, comme je l'ai dit, il met un accent particulier sur l'unité entre les chrétiens, entre les juifs et les non-juifs. Il utilise des termes comme « il y a un seul homme nouveau, un seul Seigneur, un seul corps, un même esprit », etc. pour dire ben, « ce n'est pas que vous soyez juif ou non-juif, à un moment donné, c'est un seul Seigneur, c'est un seul corps, c'est le même esprit ». La seconde partie de cette lettre, c'est l'application pratique. Comment tout ça s'applique, comment le plan du salut s'applique dans la vie du chrétien ? Qu'est-ce que ça me demande à moi ? Donc Paul parle encore une fois de l'unité, de la marche chrétienne, un marché en nouveauté de vie, ça c'est pour nos futurs baptisés, pour nous aussi, chaque jour, on progresse, mais je veux dire, voilà. Il parle de la vie familiale, et puis il termine au chapitre 6, justement en exhortant les Éphésiens à prendre toutes les armes de Dieu pour tenir ferme. C'est comme s'il termine en mettant, le couvercle sur tout ce qui a été dit précédemment. Il y a tout ça, mais il faut les armes de Dieu. Il termine avec ça. Et puis, comme on l'a vu, ce passage commence par « au reste ». On pourrait mettre aussi « désormais ». Donc, dès à présent et jusqu'au retour de Jésus, nous sommes dans un combat et on a besoin des armes de Dieu. Puis au verset 13, il est dit « Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez rester dans les jours mauvais après avoir tout mis en œuvre. » Ou bien avoir, certaines versions, là par exemple la parole de vie va dire « après avoir bien lutté ». Moi ça me parle. Il ne suffit pas d'avoir les armes pour réussir à tenir ferme. Donc on doit apprendre à les porter et à les manier. Lutter. On doit lutter, tout mettre en œuvre. Et je crois que nous sommes beaucoup à bien connaître ce passage d'Éphésiens 6, mais est-ce qu'on a vraiment saisi qu'est-ce que ça signifie dans nos propres vies, concrètement? Et je pense que souvent, on subit le combat plus que nous le menons. Donc, Paul propose ici une liste sur le modèle d'une armure d'un soldat romain. C'est clair pour nous, c'est un peu dépareillé, mais c'est sûr que ça parlait clairement à son époque. L'Empire romain était là, grandissant. Et puis, Paul lui-même, emprisonné alors qu'il écrit ça, il avait sans cesse des soldats sous ses yeux. D'accord ? Donc, à un moment donné, il a dû dire, mais ça a dû faire tilt, quoi. Il a dit, mais nous aussi, on est des soldats. Nous, on ne se bat pas pour un empereur à l'ego démesuré qui veut étendre son pouvoir, mais on se bat pour le roi des rois. On se bat pour le créateur de l'univers, qui par amour et par grâce désire que tous les habitants de la terre soient sauvés, réconciliés avec Dieu, restaurés, qu'ils obtiennent la vie éternelle. On se bat contre des puissances spirituelles, on ne se bat pas comme ces Romains. On se bat contre des puissances spirituelles qui se manifestent de manière diverse dans la réalité de nos vies. Il a dû se dire, mais nous aussi on a besoin de ces armes, offensives et défensives, comme un soldat. Mais comme je l'ai dit, elles ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles. Donc ce matin, on va commencer à parler de ces armes. Mais en fait, je vais commencer par la fin. Vous allez être déçus. En fait, j'ai scindé mon message en deux parce que j'avais trop à dire. On va commencer par la prière. Parce que la prière, bien sûr, c'est basique. Mais en même temps, c'est juste défiant. On est toujours défié par la prière. Et puis la prière, c'est génial. Lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, lorsqu'on écoute Dieu, il y a un impact. Des choses se passent. Nous-mêmes, on change. Mais nos situations changent. Des gens autour de nous changent. Des portes s'ouvrent. Des liens, des chaînes sont brisées. Des relations sont restaurées. Tout ça à partir de la prière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que la prière fait. Alors dans ce passage, après avoir décrit ses armures, il termine au verset 18 « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières de supplication. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. » Si la prière vient après le reste, si Paul a décidé de le mettre là, ce n'est pas parce qu'elle est moins importante. Je ne crois vraiment pas, au contraire. Paul met la prière à part. Ce n'est pas juste une arme parmi d'autres. C'est l'arme qui englobe l'entier du combat. C'est l'arme qui doit nous accompagner tout le temps dans notre lutte. Un commentateur a dit ceci, « La prière est l'air spirituel que respire le soldat du Christ. C'est la stratégie suprême du combat spirituel. » Alors que nous sommes bien sûr dans ce week-end de l'Ascension, je relisais tous les textes, puis j'étais justement étonné ou touché de voir que Jésus soit monté au ciel, de voir que les disciples se sont retrouvés dans leur lieu habituel, puis ils ont commencé par quoi ? Ils ont commencé par prier. Actes 1, 13 et 14. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous d'un commun accord étaient assidus à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, entre autres, les frères de celui-ci. Donc, après avoir été formé par Jésus, après avoir servi avec lui, après avoir été coaché par Jésus, donc Jésus, c'est le modèle de délégation parfaite, il a fait, ils ont regardé, il a fait avec eux, ils ont fait, il a regardé, il les avait envoyés deux par deux, vous vous souvenez. Et puis là, Jésus part, il n'est plus là. Bien sûr, on n'est jamais seul, le Saint-Esprit allait arriver, nous on a le Saint-Esprit. Mais le moment où Jésus est monté au ciel, c'était là que le vrai combat débutait pour les disciples, pour les apôtres. C'était vraiment bienvenue dans le monde réel, les gars. Maintenant, allez-y. Eh bien, une fois privés de la présence de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois plein de leur mission, ils ont commencé par prier assidûment. Parce que la prière, je crois vraiment que c'est l'arme number one. Amen. Est-ce que vous avez parfois l'impression que la prière, c'est une perte de temps? Il y en a qui sourient, il y en a qui disent « Non, bien sûr que non, Luc, penses-tu » Moi, à penser ça? Franchement, quand on a plein de trucs à faire, quand on a une liste de tâches comme ça, on commence à s'y mettre et puis le temps passe. Et puis on ne prend pas le temps de prier. Mais en réalité, quand on commence par la prière, c'est un gain de temps énorme. Et je ne peux que vous encourager, encore une fois ce matin, à prendre des temps de prière. Parce que l'atmosphère de votre journée, de votre combat, va être différente. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est difficile. Dans ce verset 18, nous sommes encouragés à prier constamment et avec persévérance. Si je reviens. Bon, il est bloqué, c'est pas grave. Avec persévérance, à veiller. On se souvient aussi de l'histoire de Jésus qui disait à ses disciples, est-ce que vous êtes capable juste de veiller avec moi une heure? Bien sûr, la majorité d'entre vous, vous avez déjà fait l'expérience de la puissance de la prière, je le crois. Mais on doit continuer, je vous encourage à continuer à développer cette vie de prière essentielle. C'est tellement important. De nouveau, l'ennemi essaie de nous empêcher de prendre ce temps, parce que c'est important, parce que c'est essentiel. Puis on doit se discipliner. On doit se discipliner. La discipline, c'est bien, si c'est pour le bon combat. Si c'est parce qu'on aime Jésus, c'est bien. Ce n'est pas une question de religiosité, mais c'est bon. Moi, je dois me discipliner, puis je vous assure que des fois, c'est dur. Parce qu'il y a toujours un enfant qui arrive, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un imprévu. Des fois même, je dis, je vais me lever vraiment plus tôt pour être sûr. À tous les coups, mon fils se réveille une demi-heure plus tôt qu'il avait prévu. C'est normal, quoi, que d'habitude. Il y a toujours des empêchements, mais on doit tenir. Et c'est bon de se discipliner. Si vous connaissez l'histoire de Daniel, c'est sur sa vie de prière qu'il a été attaqué. L'ennemi sait que notre relation avec Dieu, que notre communion avec lui, que c'est de notre communion avec Dieu que dépend tout le reste. Notre communion avec Dieu, c'est essentiel pour mener le bon combat. Donc l'ennemi va essayer d'attaquer notre vie de prière. Et je voulais juste vous donner quelques bribes de l'histoire de Daniel. Par rapport à ce sujet-là, Daniel, il était un jeune juif, né dans une famille plutôt riche, noble, et puis il a été emmené en captivité pour servir le roi de Babylone. Il voulait que des gens qui étaient issus de familles royales, qui avaient une certaine éducation. Et puis Daniel va se distinguer assez rapidement, parce que dès le début, on connaît tous ça, il a décidé de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il décide de manger que des légumes. C'est pour ça qu'on parle du jeûne de Daniel. On supprime une chose, puis on dit ça c'est le jeûne de Daniel. Lui, il a décidé de manger que des légumes. Et puis, Daniel donc, avait un cœur pleinement droit, un cœur entier pour son Dieu. Puis ce n'est pas parce qu'il était loin de Jérusalem, à des centaines de kilomètres, qu'il allait changer sa manière de vivre, qu'il allait renier sa foi. Puis ça, c'est important, parce que nous, des fois, c'est ce qui arrive. Il suffit qu'on nous déplace, il suffit qu'on soit... en voyage d'affaires, il suffit qu'on soit en vacances, et puis on change tout. Notre discipline n'est plus la même, on se permet des choses qu'on ne se permettrait jamais dans notre contexte habituel. Donc Daniel est doté d'une sagesse particulière, puis va se faire remarquer en interprétant les rêves du roi, vous connaissez tout ça. Puis le temps passe, les rois se succèdent, Daniel vieillit, il est toujours là, Il garde son cœur jeune pour Dieu. Puis il est nommé chef des gouverneurs. Le roi projette même de le placer à la tête de tout le royaume. La Bible précise qu'il y a un esprit extraordinaire, un souffle extraordinaire sur lui, l'Esprit Saint. Et puis évidemment, tout ça va créer de la jalousie. Les gens autour de lui, ses collègues, et puis ses gouverneurs qui sont sous lui, veulent le piéger. Et il est dit... ces petits qui vont aux toilettes, hein ? Ils sont là, ils existent. Daniel 6, verset 5. « Alors les chefs et les satrapes, donc les gouverneurs, se mirent en quête d'une affaire d'État pour accuser Daniel. Mais ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, aucune erreur, parce qu'il était digne de confiance et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. » C'est vraiment le bon exemple de tout ce que je viens de dire. Parce que l'ennemi, au travers de ses gouverneurs-là, il essaie juste d'accuser Daniel. Et puis ils vont chercher dans sa vie qu'est-ce qui ne va pas. C'est ce que l'ennemi essaie de faire. Il regarde qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme faille dans sa vie. Et c'est ça qui se passe avec Daniel. Mais Daniel, c'est un bon soldat. Daniel est bien équipé, et puis l'ennemi n'a pas de prise, rien. Alors bien sûr, il continue à chercher, et puis là, ils ont une autre idée. Si ce n'est pas dans sa vie personnelle, s'il n'y a pas de péché caché, s'il n'y a pas ce genre de choses, ils vont demander au roi de signer ce décret. Quiconque pendant 30 jours adressera des prières à un autre dieu ou à un autre homme que le roi sera jeté dans la fosse au lion. C'était la meilleure solution. Ils savaient que Daniel priait, donc ils se sont dit on va s'attaquer à ça. On va trouver un moyen pour qu'il n'ait plus le droit de prier. Puis ils savaient que Daniel était tellement attaché à sa vie de prière, ils savaient certainement qu'il ne pourrait pas résister, il ne pourrait pas s'empêcher de prier. Une bonne nouvelle, non ? Et puis c'est exactement ce qui s'est passé, verset 11. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui, dans la chambre à l'étage, dont les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Un petit peu plus loin, verset 17, « Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. » Je suis impressionné parce que Daniel, il n'a même pas essayé de faire différemment, quoi. Il était vraiment plein de foi, hein, Daniel, plein de confiance en Dieu. Il a fait exactement comme d'habitude, fenêtre ouverte. Je ne sais pas, moi j'aurais peut-être commencé par prier dans ma tête, ou j'aurais peut-être au moins fermé les fenêtres, je me serais peut-être mis la tête sous le coussin, j'aurais peut-être trouvé une solution, quoi. Mais non, Daniel, il ne change rien du tout. Fenêtre ouverte, il se met à genoux, il prie tout son cœur. C'était ça. Voilà qui était Daniel, un homme de prière. C'était son arme, c'était son secret. Il n'y a rien qui pouvait se mettre entre lui et Dieu. Il n'y a rien qui pouvait couper sa relation. Moi, je le vois comme un homme qui se bat pour le bon combat, ce Daniel. Parce qu'en fait, dans sa vie publique, on voit qu'il grade. On lui donne beaucoup de responsabilités, il gagne en importance, il est respecté, il a du succès. Mais Daniel, son cœur est ailleurs. Il prie trois fois par jour, certainement plus. Et il intercède pour son peuple. Et on le voit aussi au chapitre 9. Au chapitre 9, on voit un peu le pendant de la vie de Daniel, le côté privé de sa vie. Puis au verset 3 du chapitre 9, il est dit... C'est Daniel qui parle, « Je me tournais vers le Seigneur Dieu en quête de prières et de supplications par le jeûne, le sac et la cendre. » Donc Daniel se battait pour son peuple, pour Israël, pour Jérusalem qui a été dévasté. D'un côté, il avait beaucoup de succès publiquement, des hautes responsabilités, il avait des beaux habits. Mais en fait, dès qu'il avait un moment, c'était « Je cours dans ma chambre, j'enlève mes beaux habits. » Je me mets un sac, je me mets de la cendre, c'était un signe d'humiliation en fait devant Dieu, et puis je prie pour mon peuple qui est dans la souffrance. Je prie pour Jérusalem qui est dévastée. Et puis après, hop, je me rhabille, puis je retourne à faire mon travail, à faire les sourires, à être bien, à prendre des décisions, ok. Dès que j'ai un moment, il retournait dans sa chambre, il se changeait et il priait. C'était ça. Et il ne se battait pas pour son succès, il ne se battait pas pour sa réussite sociale, il se battait pour Dieu, il se battait pour le bon combat. Pour son peuple. Amen. Daniel, bien sûr, il a vu beaucoup de fruits de sa prière. Et puis, parce qu'il a fait ça pendant des années, hein, à des kilomètres de son peuple, il a fait ça. Et puis, on peut même dire que son intercession a permis la reconstruction du temple sous Esdras. Il a vu l'exaucement de ses prières. Et puis, jusque dans la fosse aux lions, où il fut retiré indemne, parce que la Bible nous dit au verset 24 du chapitre 6, parce qu'il avait mis sa foi en son Dieu. Donc, Dieu a, vous connaissez, il y a des anges qui sont venus fermer la gueule des lions. Donc, l'ennemi n'a vraiment rien pu faire contre Daniel. Et puis, sa vie de prière était son arme, son secret. Vous êtes toujours là? Alors, on va juste regarder maintenant. Ah, c'est que ça ne fonctionne toujours pas, par contre. Le verset nous dit, le verset 18 nous parle de toutes sortes de prières. Vous avez lu avec moi toutes sortes de prières. Donc, il y a toutes sortes de manières de prier. Mais toutes, ça je peux vous le garantir, toutes dérangent l'ennemi. C'est une bonne chose, ça. Des fois, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur est-ce qu'on prie juste. Il y en a qui font des grandes théories. C'est vrai que Jésus a dit, priez, quand on a prié, Père. Père qui est dans les cieux. Ok, on peut avoir une idée de la manière de prier, d'accord ? Mais moi, ce que je vous encourage à faire déjà, c'est prier. Ok ? Parler à Jésus, parler à Dieu. Et une manière, c'est la prière de reconnaissance. Et pourquoi ça dérange la prière de reconnaissance ? Pourquoi ça dérange l'ennemi ? Qu'est-ce que l'ennemi dit quand vous êtes reconnaissant dans vos prières ? Il va dire, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il loue dans de telles circonstances. Ça veut dire que mon attaque n'a pas réussi. Ça veut dire que je n'ai rien pu faire. Ça veut dire qu'il est bien attaché à Jésus. Il loue Dieu quand même. L'ennemi est mal. Il est mis à mal. La prière de supplication. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. On a vu ça dimanche dernier justement. L'ennemi dira, mais il ne s'inquiète pas. Avec tout ce qui lui arrive là, il ne s'inquiète pas. Ah non, il met sa confiance en Dieu. Mince, mon plan n'a pas fonctionné. Je ne peux rien faire. Pas de pouvoir. Parce que je fais connaître mes besoins à Dieu. Je ne m'inquiète pas du lendemain. La prière de combat. L'ennemi va dire, mais quoi mais, hein, il proclame le nom de Jésus. Il redit les promesses de Dieu. Il se place sous la protection du sang de Jésus. Je ne peux rien faire. Même, faut que je me barre vite. Faut que je me tire de là. Parce que le gars, il est en train de combattre. La prière d'intercession. L'ennemi dira, des anges arrivent de partout. Je ne peux plus avoir accès à cette personne. Il faut que je me batte en retraite. Je n'ai plus de pouvoir. C'est ça qui arrive quand vous priez, quand vous intercédez. Tu envoies ces anges. Dieu touche, Dieu entoure une personne. Et j'ai entendu un récit magnifique où ça s'est réellement passé, où des hommes ont commencé à voir des hommes, des méchants qui étaient en train d'attaquer des missionnaires. D'un coup, ils ont vu des hommes arriver tout autour. Puis ils ne savaient pas ce que c'était, ils sont partis, ils ont laissé les missionnaires tranquilles. Puis en fait, au même moment, c'était au Kenya, aux États-Unis, des gens s'étaient rassemblés. Ils avaient juste eu ce fardeau d'intercession pour ce couple missionnaire. À ce moment-là, ils ont commencé à intercéder à des milliers de kilomètres. Dieu a envoyé ses anges. L'ennemi a pris la fuite. C'est ça qu'il se passe. Prière d'intercession. Continuez à prier pour tous les saints, pour les chrétiens, pour vos enfants. La prière et le jeûne. L'ennemi va dire, mais j'ai aucune prise sur sa chair. Il se nourrit de la parole de Dieu. Et puis lorsqu'on jeûne, on est encore rempli d'autorité d'une manière différente et nouvelle. Il va voir ça, il est rempli d'autorité. Je ne peux rien faire, je dois fuir. La prière à plusieurs, en groupe, dans l'unité. L'ennemi va dire, mais ils se tiennent soudés ensemble. Ils proclament le nom de Jésus ensemble. Je ne peux pas diviser. On a vu que c'était son but, il voulait diviser, mais là il ne peut pas. Il n'y a pas de faille dans la muraille. Hein. Quand on prie ensemble, c'est comme si on forme une muraille. L'ennemi ne peut pas venir, il n'y a pas de faille. Et ça, vous pouvez le vivre aussi en couple, aussi en famille. Prier ensemble, c'est un signe fort. Et Jésus le confirme d'ailleurs dans ce texte de Matthieu 18 à 20. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pour demander quoi que ce soit, donc nous on pense de toute façon directement à des super trucs. Mais avant, on parle quand même de lier quelqu'un, lier quelque chose. D'accord ? Donc tout ce qu'on demande ensemble, quand on s'accorde, et le terme s'accorder, c'est symphéneo, qui a donné symphonie. C'est magnifique. Donc, quand on s'accorde comme une symphonie, pour faire un accord, hein, si vous prenez un piano pour faire un accord, il faut au moins trois notes. Do, mi, sol. D'accord ? Puis quand on fait ça, burp, ça fait un accord. Ok, c'est ça. Il faut qu'il y ait un accord. Puis ça fait do, mi, fa, niaise. Ça va pas. Vous êtes d'accord ? Il faut qu'on soit ensemble, dans l'unité. Et puis là, Dieu répond. Donc la prière, je conclue, est une arme puissante qui impacte directement les lieux célestes, qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est même plus qu'une arme, on l'a lu, c'est l'air spirituel du soldat. Avant que je prie, j'aimerais encore vous passer un petit extrait du film, peut-être vous l'avez vu, War Room, qui nous encourage vraiment à prier, à trouver un petit endroit dans notre chambre, avoir un petit espace, et à prier, à combattre aussi pour les nôtres. Et la découverte de cette famille, de la puissance de la prière, ça a changé des choses. Et moi, j'ai bien apprécié ce film que je peux vous recommander. La qualité n'est peut-être pas terrible. Veuillez m'excuser, mais l'essentiel y est. Donc, la scène que je vous montre, c'est le moment où cette femme commence à prendre autorité, en fait. Elle commence à réaliser qu'il y a bel et bien un combat, et puis qu'elle peut combattre, qu'elle peut faire quelque chose. OK ?
War Room.
Alors, est-ce que ça part ? Quoi, j'ai écrit faux ? Je voulais éteindre les... Non. Donc elle est toute seule à ce moment-là. Hein. Il n'y a pas les enfants au salon, ok ?
Amen.
Amen. Il y en a qui ont hâte de se retrouver seuls dans leur maison, hein? Donc ce matin, j'aimerais simplement vraiment vous inviter à refaire de la prière une priorité. Je sais, vous entendez souvent des messages sur la prière, mais c'est tellement essentiel, puis c'est tellement dur à la fois. Donc on a besoin de le réentendre, on a besoin de le vivre, on a besoin de s'encourager à prier. Donc la prochaine fois, on verra toutes les armes, toute cette armure en détail. J'avais déjà beaucoup travaillé, mais ce sera pour le 25 juin. Mais je crois que si notre relation avec Dieu, elle n'est pas première, eh ben, ces armes, elles ne vont pas prendre leur sens non plus dans notre vie. Donc on a besoin de commencer par là. Je vais vraiment vous inviter à faire décoller votre vie de prière. Si vous êtes d'accord, on va juste prier. Si on a ceux, ce serait bien, mais on pratique. Celles et ceux qui disent ce matin, vraiment, j'ai besoin que le Saint-Esprit peut-être revisite, redynamise ma vie de prière. Ce matin, je veux choisir de me rediscipliner, d'accord ? Ce n'est pas de la religiosité, la discipline, si on le fait pour Dieu, avec un cœur pour Dieu. Okay ? Si vous choisissez ça, vous dire, ok, je veux refaire des bons choix, je veux me remettre à reprendre ces temps de prière, peut-être que je prenais avant, mais j'ai arrêté. Ben, vous pouvez juste lever votre main dans ce lieu, juste dans l'intimité, et puis moi, je veux prier pour vous, avec vous. Si vous n'êtes pas gêné de lever la main, c'est juste pour Dieu. Et puis, vraiment, montrer ce signe, dire, ok, moi, pourquoi je vous fais lever la main souvent, ou bien des fois je vous fais lever, c'est juste pour que vous puissiez prendre cette décision. Parce que si on le dit jamais, si on le manifeste jamais, si on ne se lève pas, si on ne lève pas la main, alors finalement, c'est juste un truc qui reste bien au fond de nous. Puis finalement, si personne ne l'a vu, ben, de toute façon, si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Mais des fois, c'est juste de prendre un engagement, de dire oui, Seigneur, franchement, je montre clairement que je m'engage à vivre cette vie de prière, à retrouver cette vie de prière dynamique. Parce que c'est nécessaire pour mener le combat que tu m'appelles à mener. Alléluia. Seigneur, on veut ce matin venir ensemble devant toi. Seigneur, on croit pleinement que la prière du juste est efficace. Seigneur, on croit que la prière est une arme puissante qui dérange l'ennemi. Et on veut refuser que l'ennemi vienne attaquer cette vie de prière. On veut refuser que les circonstances, que les choses à faire prennent le dessus, la priorité. Seigneur, ce matin, moi le premier, je veux me repositionner. Je veux dire oui, c'est toi ma priorité. C'est mon temps avec toi ma priorité, mon rendez-vous avec toi. Seigneur, c'est là qu'on va pouvoir voir des miracles. C'est là qu'on va pouvoir voir des changements. C'est là qu'on va pouvoir prendre du terrain à l'ennemi. Seigneur, on veut être ensemble capables de veiller pour toi. On veut être ensemble capables d'être debout et de veiller, de prier constamment pour que le combat ici sur terre soit remporté. Que l'ennemi n'ait plus aucun droit, aucun pouvoir. Seigneur, je prie que tu fortifies nos cœurs. Seigneur, c'est de toi que vient la force. Alors Seigneur, on veut se saisir de ta force pour mener ce combat. Saisir de ta force pour cette vie de prière. Seigneur, donne-nous cette motivation renouvelée, ce feu renouvelé dans nos prières, dans notre vie de prière. C'est dans le nom de Jésus que je prie ce matin. Amen.